France Inter.
Un embarquement dans le noir. Malgré la guerre, le train de nuit continue de rouler au départ de Kiev.
La compagnie de chemin de fer n'a jamais cessé de travailler depuis le début de la guerre. 3 800 000 Ukrainiens ont pu être évacués grâce au courage des employés.
Ils viennent de passer un an à rouler sous les bombes. De Kiev à Kharkiv, de Kherson à Sloviansk, de jour comme de nuit, les cheminots ukrainiens continuent de sillonner le pays. Souvent à pleine vitesse, parfois au ralenti, toutes lumières éteintes pour déjouer la surveillance des Russes près des zones de combat. Malgré plusieurs dizaines de kilomètres de voies ferrées endommagées depuis le déclenchement de la guerre le 24 février, les trains transportent des troupes, des marchandises, des munitions. Ils permettent d'évacuer les blessés, de rapprocher les familles. Une locomotive qui entre dans une ville libérée après des semaines d'occupation de l'armée russe, c'est une porte de sortie inespérée, indispensable.
Il y a eu la joie de la reprise du trafic ferroviaire. C'était pas un train complet, il y avait seulement deux wagons. Mais on a pu ainsi aller à Kharkiv, enfin, pour recevoir le versement de nos retraites. Parce qu'ici, tout a été bombardé, donc on ne pouvait régler absolument aucune formalité.
Pourtant, Ukrzaliznitsia, la compagnie ferroviaire nationale, a longtemps été critiquée pour sa corruption. La contrebande de fioul, les vols dans les ateliers, les pièces facturées 10 fois leur prix et même le financement occulte de campagnes électorales. Pointés du doigt pour leur incapacité à se moderniser, les cheminots sont désormais en première ligne dans la guerre contre la Russie et considérés comme des héros, comme ceux qui continuent d'avancer malgré les bombes et les salaires passés de 500 à 300 euros par mois à cause de la suspension des primes au nom de l'effort de guerre.
Le retard le plus important de ce train a été de 15 heures. C'était suite à un bombardement massif le 23 octobre. Mais il n'a pas été annulé. Pendant les frappes, quand il n'y a plus de courant, on continue le trajet remorqué par des motrices diesel ou bien sur notre marche de réserve à vitesse réduite. Malgré tout, on avance. On amène tous nos passagers à destination.
Embarquement immédiat sur le quai de la gare de Kiev, ce reportage vous emmène à bord de l'express numéro 712 jusqu'à la ligne de front près de Kramatorsk. Le train, ligne de vie de l'Ukraine, un reportage de Vanessa Descoureaux, prise de son Benjamin Thieu.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Ilya Brodnik, steward en chef à la société ukrainienne des trains à grande vitesse.
Est-ce que vous avez le sentiment que votre métier a changé depuis le début de cette guerre ?
Avant cette guerre de 2022, sur cette ligne, la moitié des passagers étaient des militaires. Maintenant, entre Kiev et Kramatorsk, c'est entre 60 et 70%. Et dans l'autre sens, quand on rentre de Kramatorsk, le train est quasiment plein de soldats, 90%. Il s'agit de militaires en rotation, qui partent en permission. C'est pour cette raison que ce train est sur l'une des lignes les plus difficiles. Parce que la plupart des gens peuvent être traumatisés par les horreurs qu'ils ont vues et vécues dans cette guerre. On doit être très attentif et réactif face aux différentes situations qui peuvent se produire parce qu'ils ont des armes sur eux. C'est ça qui en fait pour nous l'une des lignes les plus compliquées.
Là, on va monter à bord du Kiev-Kramatorsk, qui est une ligne un peu particulière. Il y a beaucoup de militaires déjà qui sont installés. C'est pas le métier quand même que vous faisiez avant la guerre, c'est cette clientèle-là, ces passagers-là.
L'attitude des clients vis-à-vis de nous a beaucoup évolué en positif. Tout a changé après les opérations d'évacuation. Avant, on nous regardait comme du personnel chargé d'assurer des déplacements d'un point A à un point B. Mais aujourd'hui, presque un client sur deux qui sort du train dit merci, nous sourit. On nous sourit toujours. Les gens nous expriment leur respect pour le personnel des trains, pour les conducteurs. Parce que tout le monde dans sa famille a quelqu'un qui a été sauvé par la compagnie de chemin de fer. Voilà pourquoi la situation
situation a changé pour nous. Voir les gens qui se retrouvent, c'est ça qui rend notre travail plein d'émotions. Parfois les gens se séparent, parfois les amoureux se retrouvent. On voit très souvent des histoires comme ça, avec beaucoup de larmes. Ça fait plaisir à voir, parce que ce sont les émotions des gens.
Vous regardez l'heure, vous regardez le portable, on va vous laisser, on vous retrouve un petit peu plus tard quand on roulera. Sept heures de trajet à peu près nous attendent pour ce Kiev-Kramatorsk, train dans lequel il y a effectivement pas mal de militaires. Et d'ailleurs, en ce moment, on assiste à des scènes d'au revoir entre les petites amies et ces soldats qui retournent sur le front. Évidemment, pas mal de civils qu'on va aller rencontrer, ainsi que le personnel de bord au cours de ce trajet.
Bonjour, Alona Romash-Kovolok, je suis contrôleuse, j'ai 31 ans.
Depuis le 24 février 2022, il y a aussi une part de risque qui est arrivée dans ce métier. Comment vous gérez ça ?
Au début, j'avais peur quand nous desservions la zone de Kharkiv, parce qu'on entendait très clairement les explosions. Maintenant, on les entend moins. Le bruit était bien plus fort avant. On avait peur, mais il fallait bien aller chercher les habitants de la ville, qui étaient encore plus effrayés que nous. Parce qu'ils se trouvaient dans les zones de combat. Leur maison était détruite, ils perdaient leurs proches. Alors on avait peur, bien sûr, mais nous unissions nos efforts pour continuer notre travail. Parce qu'il fallait aider.
Sur ce trajet, vous ne dormez pas à Kramatorsk. On arrive normalement vers 13h35 et une heure après, vous repartez. Pour quelle raison ?
Parce que nous arrivons dans une zone proche de la ligne de front. Là-bas, il y a encore des combats tout près, donc nous nous arrêtons juste le temps que les gens montent à bord. Et on assure le trajet retour. On limite au maximum les risques pour les passagers, pour nous et pour le train.
Je vais vous donner mon sentiment, très honnêtement. Pour nous, en tout cas, pour moi, c'est bizarre de voir qu'un train arrive à 50 km d'une ligne de front aussi violente que celle de Bakhmout et Soledar. Et pour l'Ukraine, ça a l'air normal.
Je ne me rends plus compte. Nous sommes habitués. Ici, on a développé quelque chose. Mais comment dire ça ? Nous n'avons pas peur.
Peut-être que certains ont encore peur,
mais nous sommes déjà tellement habitués au bruit, aux sirènes. Nous ne réagissons plus comme avant. On ne ressent plus la même peur qu'avant. Il faut sauver les gens où qu'ils soient. Et si le destin, c'est de mourir, alors que ce soit Poutine qui meurt.
Vous échangez parfois avec les nombreux soldats qui sont à bord, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que vous avez le temps des fois pour un peu échanger, parler de ce qu'ils ont vécu, de tout ça, ou pas du tout ?
Oui, parfois avec les militaires qui montent dans le train, quand ils rentrent chez eux en permission, par exemple, ou à l'hôpital, ou n'importe où, en fait. Parfois, ils s'ouvrent à nous spontanément et racontent leur malheur. Ils nous confient ce qui s'est passé sur le front. Ils racontent à quel point c'est l'enfer là-bas, combien de personnes sont mortes autour d'eux. C'est très dur à entendre, c'est terrible. Parfois, à mon tour, je me confie à mes proches, mais je ne donne pas de détails sur ce que nos soldats endurent. Je les ménage pour ne pas les affecter psychologiquement, car c'est vraiment dur.
Ligne de front de Bakhmout, 24 janvier 2023.
Nous sommes dans un train plutôt moderne, ce qui n'est pas toujours le cas pour être très honnête sur l'intégralité du réseau ferré ukrainien. Et c'est même d'ailleurs une volonté affichée par la compagnie de choyer en quelque sorte les habitants de l'Est, que ce soit Kharkiv, qui est la deuxième plus grande ville du pays, ou que ce soit les habitants du Donbass, puisque Kramatorsk est la dernière grande ville de la province desservie par le réseau, parce qu'après ça, 50 km plus loin, c'est Bakhmout, Soledar, c'est-à-dire le front le plus violent, le plus farouche du moment. On s'est installé aux côtés de Samouraï, c'est votre nom de combat, donc c'est pour ça qu'on va utiliser celui-ci. Vous avez rejoint l'armée ukrainienne à quel moment ?
Le 26 février, il y a un an, au tout début de la guerre, dans les premiers jours.
Vous êtes envoyé où ? Là ? Vous allez où ?
Dans mon unité, du côté de Bakhmout. Là, je sors de l'hôpital, donc je suis rappelé de nouveau sur le front. C'est la troisième fois que je suis hospitalisé, à chaque fois pour des blessures différentes. Là, c'était pour le cœur et les poumons, parce que j'ai inhalé du phosphore contenu dans les bombes russes. Et j'avais aussi d'autres petites choses à traiter, des blessures. J'ai respiré de l'air vicié, parce que je me cachais dans des maisons visées par les bombes au phosphore. Les problèmes au cœur, ça vient d'autre chose. C'est la conséquence des combats prolongés à Metelkino, près de Severodonetsk. Notre unité est restée la dernière sur place. On a encaissé un maximum. J'ai beaucoup de gros mots en tête, mais je ne peux pas vous les dire. C'est tout ce que m'inspire cette situation.
Je ne sais pas s'il existe une façon habile de poser la question, Samouraï, mais je vais me lancer quand même. Dans quel état d'esprit êtes-vous dans ce train ?
Ça peut paraître un peu bizarre, mais je suis enthousiaste à l'idée d'y retourner. Même si je tiens à dire que la guerre, c'est toujours mieux de l'éviter. Pour moi, c'est comme être dans un film, tellement c'est irréel de combattre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? En fait, c'est tout simplement notre devoir de faire ce que nous sommes obligés de faire.
Vous avez été hospitalisé combien de temps ?
Un mois et demi.
Vous aviez des nouvelles quand même ?
Bien sûr, tout le temps. On parlait de choses anodines, des permissions, des va-et-vient dans l'unité. Parce qu'on n'a pas le droit de parler des combats. Les messages peuvent être interceptés par les Russes. Donc on parlait de choses et d'autres, comme l'envie de rentrer à la maison et que tout ça se termine le plus vite.
Moi, je trouve qu'il y a une ambiance un peu particulière dans cette voiture, dans ce train. Il y a beaucoup de militaires et peu de mots. Personne ne parle, en fait, comme si tout le monde était un peu dans ses pensées.
Bien sûr, c'est calme. Chacun est plongé dans ses pensées, absorbé. Peut-être que parmi ces soldats, il y en a un qui va pour la première fois au front. Ina, je me demande bien ce qu'une civile comme vous fait au milieu de ce train plein de militaires.
Je suis obligée car mon mari était à Soledar. Il a été blessé et je vais le voir à l'hôpital.
Quelles sont les nouvelles que vous avez de votre mari ?
Vous savez, pendant deux semaines, on n'a eu aucune nouvelle de lui. Il vient d'être retrouvé blessé et amené à l'hôpital. J'ai téléphoné à la ligne info car je le cherchais partout. Ensuite, un officier de sa brigade m'a informé qu'il avait été blessé et qu'il était en route pour Kramatorsk.
Vous êtes originaire de Kramatorsk, mais vous vivez à Jytomyr, qui est à l'ouest de Kiev. Pour quelle raison vous avez quitté le Donbass au début du conflit ? Pour quelle raison vous vous retrouvez aussi loin de la terre natale ?
à cause des combats. Il fallait éloigner les enfants, les envoyer le plus loin possible de tout ça.
Я в порядке.
On retrouve Ila Brudnik, qui est le steward, le chef de bord de ce train, qui va nous conduire donc à Kramatorsk. Est-ce qu'il y a déjà eu des soucis d'électricité, d'alimentation d'électricité sur une ligne à grande vitesse comme celle-ci ?
Quand
je pars au travail, chaque fois, j'espère que tout va bien se passer. Les Russes peuvent viser des installations une à deux fois par semaine, c'est sûr. Quand ça arrive, certains des trains sont en retard, surtout celui-ci qui est sur la ligne la plus longue. Entre Kiev et Kramatorsk, c'est presque 800 km. Il y a des retards quand il y a des tirs massifs. La dernière fois, c'était pendant les fêtes du Nouvel An. Ce n'était pas des bombardements sporadiques, mais des bombardements massifs. Je travaillais à ce moment-là comme ingénieur responsable de l'ensemble du réseau, parce qu'il m'arrive de changer de poste de travail. Le train venant de Kramatorsk est arrivé à minuit pile, et l'équipe du train est arrivée au bureau. Et c'était l'heure de boire le champagne. Mais ils avaient 4 heures de retard. Pourquoi ? À cause d'un bombardement sur les infrastructures électriques. Les sous-stations sont alors endommagées et le train s'arrête. Ce train est moderne, il est hyper dépendant de l'électricité. S'il n'y a pas de courant, la situation devient difficile. Les toilettes ne marchent pas, l'éclairage, le chauffage non plus. Si on compare avec les vieilles rames, elles ont des poêles à bois et on peut se réchauffer dans les wagons. Ici, en revanche, sans électricité, tout s'arrête. Les portes ne marchent pas, les annonces ne marchent pas. Jusqu'au moment où le réseau électrique est réparé. Le retard le plus important de ce train a été de 15 heures. C'était suite à un bombardement massif le 23 octobre. Mais il n'a pas été annulé. Pendant les frappes, quand il n'y a plus de courant, on continue le trajet remorqué par des motrices diesel ou bien sur notre marche de réserve à vitesse réduite. Malgré tout, on avance. On amène tous nos passagers à destination. Sur cette destination, on a des couvertures, il n'y en a pas pour tout le monde, mais assez pour les enfants au moins. Si les températures sont basses, on les réchauffe comme ça. Nous avons des réserves d'eau, des chaufferettes pour distribuer de l'eau chaude aux passagers. On s'arrange aussi avec les volontaires postés dans les gares pour qu'ils apportent de la nourriture si on a plus de 5 heures de retard. Je veux que vous souligniez que même avec un retard de 15 heures, nous n'avons jamais annulé un train, malgré toutes les frappes. Hier, Kramatorsk, par exemple, a été bombardé. On est venu, on a assurer le transport. On embarque tous nos passagers et on continue, malgré tout.
Les Russes frappent également un bon nombre d'infrastructures ferroviaires. Est-ce que ça veut dire que vous vous sentez être une cible ? Est-ce que vous trouvez que votre métier est devenu dangereux, tout simplement ?
Tu te sens partout en danger, mais on ne panique pas pour autant. Il n'y a plus de peur chez moi. J'avais peur la première semaine de la guerre. Mais après, vu l'intensité du travail, je n'avais même plus le temps de penser à ce qui pourrait se passer. La peur m'est absente. Tu veux juste que tout le monde arrive à bon port, que tous les trains arrivent intacts, que nos dépôts ne soient pas bombardés. Tu veux juste que tout se passe bien.
Nous sommes descendus de notre train pour faire un léger retour en arrière. Nous sommes à nouveau à Kiev pour un arrêt, toujours devant la gare de Kiev, mais cette fois devant la partie administrative qui est occupée par la société de chemin de fer qui s'appelle Ukrzaliznitsia. À ce jour, 232 cheminots ont été tués dans le conflit. Il y a à peu près autant de blessés parce que le train, ou d'une manière plus générale, les infrastructures ferroviaires sont la cible régulière de l'armée russe. Et on va en parler avec Anastasia Zolotoryova. Elle est l'une des porte-parole de la compagnie de chemin de fer.
À vrai dire, dès le début de l'invasion russe, la compagnie est devenue le cœur logistique du pays. Nous avons fait autant d'évacuations que d'acheminements de l'aide humanitaire destinée à l'Ukraine. Nous avons aussi assuré la circulation des diplomates. C'était une question logistique importante et les Russes l'ont bien compris. Ils essayent d'endommager nos infrastructures et de nous empêcher de travailler. Au début, ils ont tenté de bloquer le transport de marchandises et de passagers. Leur but n'est pas seulement d'avoir un impact sur la vie économique du pays, mais aussi de maintenir une pression psychologique sur la population.
Est-ce qu'il y a déjà eu des lignes intégralement interrompues, coupées, suite à une attaque russe ?
Bien sûr, dès le début de l'invasion, selon nos premiers calculs, 37 km de voies ferrées ont été endommagées. Et on compte près de 73 bâtiments techniques qui ont été touchés, comme des gares ou des dépôts. Pour l'instant, nos services ont réparé 20 km de voies. L'exemple le plus significatif en termes de réparation, c'est la ligne vers Kherson. Après la libération de cette région, sur une petite portion de voies ferrées entre Mykolaïv et Kherson, nous avions en tout 70 problèmes techniques à réparer. En une semaine, on a réussi à tout réparer après avoir déminé, tout ça en liaison avec le ministère des situations d'urgence. Ensuite, les trains ont recommencé à rouler.
Il arrive quai numéro 1 avec une petite heure de retard. Ce train attendu ici à Kherson depuis près de 9 mois. Peu de passagers à bord, quelques dizaines seulement, mais un immense sourire sur le visage d'Anya. Anya n'était plus revenue ici depuis janvier, alors elle a voulu faire la surprise à ses parents qui, par hasard, sont venus ce matin charger leur portable dans le hall de la gare. Coup de téléphone.
Mais vous êtes à la gare ?
Les retrouvailles, émues avec son père, sa mère.
L'arrivée de mon enfant, c'est le plus beau des cadeaux.
Oui, c'est notre fille unique, mais Gennady le dit. Dès que ce sera possible, c'est nous qui repartirons vers Kiev avec notre fille. Kherson, Agathe Mahué, Gilles Gallinaro, France Inter.
Comment s'est passée la mobilisation, en fait, pour être aussi réactif ? Concrètement, comment ça se passe ?
Globalement, sur la réactivité de la compagnie, malgré le fait que nous soyons une société d'État, nos prises de décision ne se font pas de manière traditionnelle. C'est décentralisé. Tout ne se décide pas au sommet. Ce sont les gens sur le terrain qui agissent. L'administration centrale ne se mêle pas des petits détails. Ça nous a donné la possibilité de réagir vite, surtout au début de la guerre. Quand certains dirigeants étaient injoignables ou indisponibles, les responsables locaux pouvaient prendre les décisions qui s'imposaient. Ils n'attendaient pas les ordres, ils travaillaient, tout simplement.
Est-ce que le train se contente de transporter uniquement des passagers, civils ou militaires d'ailleurs, ça on a pu le constater, ou est-ce qu'il y a aussi des marchandises, des céréales qui sont transportées ?
Il y a différents types de trains, mais pour les marchandises, ce sont des trains à part, avec des tracés à part. Par exemple, pour le minerai de fer, l'essence, ou pour tout autre produit d'ailleurs. Le transport de marchandises représente une part très importante de notre activité. Et ça continue à fonctionner.
Les armes livrées par l'Occident sont-elles aussi acheminées par train ?
Je vais répondre pas une pirouette, car vous comprendrez que je ne peux ni confirmer ni démentir cette information.
On va juste préciser, Anastasia, qu'au terme de cette interview, vous allez prendre un train pour la Roumanie, pour la réouverture de la ligne. Il y a quelques semaines déjà, la ligne entre l'Ukraine et la Moldavie voisine avait été rouverte. Et on va préciser enfin que la ligne avec la frontière polonaise, celle-ci, n'a jamais cessé de fonctionner.
Préserver les liaisons avec les pays voisins, c'est l'une des priorités. Les Ukrainiens, pour accélérer la jonction avec la Moldavie, ont même pris à leur charge la construction des quelques centaines de mètres de voies de raccordement au-delà de la frontière. Mais c'est surtout à l'intérieur du pays que se concentrent les efforts de construction et de reconstruction. Le 8 avril, deux missiles russes prennent pour cible la gare de Kramatorsk, les bâtiments s'effondrent, l'attaque fait 56 morts. Aujourd'hui, les traces des bombardements ont totalement disparu, les voies ferrées, les alentours sont comme neufs, et c'est dans ce décor qu'entre en gare le train venu de Kiev, dans lequel on retrouve Vanessa Descoureaux et Benjamin Turo.
Pile, parfaitement à l'heure pour ce train qui nous a donc amené à Kramatorsk en traversant sur les 30 dernières minutes un paysage industriel assez typique de la région avec beaucoup d'acier, de béton, de ferraille, des grandes cheminées. Et nous voici donc à Kramatorsk, ville qui est régulièrement attaquée, pilonnée par l'armée russe. On n'a pas eu le droit d'aller voir le conducteur de train pendant le trajet, évidemment, en roulant. C'est interdit. Et maintenant que nous sommes arrivés à Kramatorsk, on va aller discuter avec lui. Donc là, je suis en train de réaliser le rêve de beaucoup de petits garçons d'être à la place du conducteur de train. Edouard, depuis combien de temps vous faites ce métier d'abord ?
J'ai commencé ce boulot en 1994, notamment sur ce type d'engin qu'on a reçu en 2012. Ils ont été achetés pour l'Euro de foot en 2012. Au total, ça me fait 29 ans d'expérience.
Est-ce que vous avez le sentiment de participer à l'effort de guerre, selon vous ?
Oui, oui, nous travaillons tous pour la victoire.
Quel sentiment ça vous procure ?
Moi, je suis d'ici, de la région. Je suis de Sloviansk. Aider, c'est une nécessité. Après le début de la guerre, au mois d'avril, j'ai évacué ma famille, mes trois enfants, vers Kiev. Je travaillais ici sur les trains électriques que je conduisais déjà à Donetsk. J'allais partout dans le pays, jusqu'à Mariupol. Comme je suis du coin, je suis comme un poisson dans l'eau. Je connais tout ici. Je peux conduire le train les yeux fermés. Je connais tous les détours, tous les virages, toutes les traverses entre les rails.
Quel souvenir vous gardez quand vous étiez aux commandes de cet appareil, quand vous évacuiez derrière vous des centaines de personnes qui voulaient quitter le Donbass ?
Pour moi, c'était le même boulot que celui qu'on faisait depuis toujours, mais avec une foule gigantesque. Il y avait des gens assis dans le couloir, d'autres qui se tenaient debout. On en voyait aussi accroupis entre les voitures. Ces scènes, je les ai beaucoup vues, car je ne travaille pas que sur les trains de Kramatorsk, mais aussi sur les lignes de l'Ouest et même jusqu'en Pologne pour les évacuations. J'ai vu ça tellement de fois.
Le train que nous avons emprunté repart dans quelques minutes pour être dès le soir même à Kiev, et c'est une ambiance tout à fait différente là sur le quai, puisque c'est l'heure de la permission pour les soldats qui montent à bord. C'est l'heure de la permission pour vous là ?
Oui, c'est la permission, j'ai 5 jours.
C'est quoi le programme de la permission ?
Voir enfin les proches, les amis, que je n'ai pas vus depuis longtemps. Ils sont tous à Kiev.
Comment ça se passe à l'unité, ça va ?
On tient debout, c'est dur, mais nous résistons. Je suis posté dans l'endroit le plus difficile en ce moment. Je suis à Soledar.
Le moral, ça va ?
Ça va parfaitement bien, nous ne céderons pas à Soledar. Tout se finira bien.
Là, on entend au loin quelques tirs d'artillerie. Pour vous, c'est rien du tout. Pour vous, c'est habituel, c'est loin pour vous ?
Oui, oui, c'est une habitude, ça. C'est normal. Pour nous, c'est normal.
À Soledar, ils sont en face de vous, quasiment, les Russes.
Est-ce qu'ils sont proches ?
Oui, 30 mètres. C'est proche pour vous ? Alors oui, ils sont proches.
Je vais pas vous faire rater le train, ouais. C'est l'heure. Je vais pas vous faire manquer le train, parce que vous avez bien mérité vos 5 jours de permission. Merci beaucoup. Il existe
existe aujourd'hui des produits dérivés à la gloire des cheminots, cette popularité n'a pas toujours été la norme. Ukr Zaliznitsia a longtemps traîné une réputation de société corrompue, inerte, car trop installée dans son héritage soviétique. Durant des décennies, la pesanteur bureaucratique, la corruption individuelle ou à grande échelle, tout ça a bloqué la modernisation du réseau. Le siège social de ce colosse de 230 000 employés est situé tout près des bureaux du procureur général et selon une blague de la rue ukrainienne, ce n'est pas tout à fait un hasard. Alors cette soudaine réactivité a surpris, y compris les connaisseurs du milieu, comme Oleksandr Krasnostan. Il a travaillé 10 ans pour les chemins de fer ukrainiens et il a depuis rejoint le secteur privé où il est conseiller pour le développement des transports publics.
Avant, franchement, il y avait pas mal de mécontentement, autant de la part des passagers que des employés. Les passagers râlaient sur la qualité du service, sur l'état vétuste des trains et des rames. Les salariés, eux, ont souvent dénoncé leurs conditions de travail, d'équipement. Certains n'avaient même pas d'uniforme. Les cheminots sur le terrain se sentaient déclassés, se plaignaient à leur manager. Parfois, il y avait du retard dans le paiement des salaires. Et tout ça a disparu, du jour au lendemain.
C'était une société inefficace avant ?
Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Parce que si on regarde le volume des transports, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas opérationnelle. En revanche, c'est sûr que si on parle de qualité de service et de fiabilité, alors là oui, ça c'est vrai. En fait, avant la guerre, le volume de transport était plus important. La société transportait plus de passagers que maintenant. En 2019, trois fois plus de passagers qu'aujourd'hui ont voyagé sur le réseau. Donc, ça fonctionnait quand même avant la guerre. On ne peut pas dire que rien ne marchait. Mais maintenant, cette compagnie, tout le monde l'adore. Si avant, les passagers se plaignaient de l'état des voitures ou du piètre service des employés, maintenant, plus personne n'ose le faire. Parce que tout le monde a vu la mobilisation des cheminots et les miracles qu'ils ont accomplis.
Alors qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi ce qui était impossible pendant toutes ces années est devenu possible quasiment en une journée ?
Je vais faire court. Pour unir les gens, rien de mieux que de faire face à un danger et un risque commun.
Ça vous a surpris de voir cette capacité de réaction, vous qui connaissez la machine de l'intérieur ?
La réactivité a été instantanée, surtout pendant les premiers jours de l'invasion. Ce n'était pas une situation qui évoluait heure après heure, mais plutôt minute après minute. Et la réactivité a été spectaculaire. Toute cette souplesse acquise avec la guerre, il va falloir la garder après le conflit. Il faut conserver ces nouvelles approches. Pourquoi ? Parce que nous visons la victoire et la reconstruction de l'Ukraine. Après la victoire, il y aura des efforts titanesques à faire pour reconstruire les infrastructures et les trains. Et le plus important pour cela, ce sont les ressources humaines. C'est pour cette raison qu'il faut garder cette approche souple et réactive. Il faut cultiver ça au sein de la compagnie de chemin de fer, c'est nécessaire. Ce sont de grandes qualités qui, pour le futur, vont nous placer sur les rails du progrès. Tout ça dans le but de reconstruire l'Ukraine. Parce que le train, c'est le cœur du pays.
La société, selon vous, a les ressources pour continuer sur cette voie, sur ce chemin de la consolidation, pour reprendre vos termes, où il y a quand même un risque peut-être de retomber dans les vieux travers du passé ?
On aimerait conserver les progrès obtenus. Il faut que la compagnie les conserve. Mais malheureusement, le risque de retour en arrière existe réellement. On doit mettre toute notre énergie pour éviter ça.
Avec 23 000 km de voies, l'Ukraine est le troisième réseau ferroviaire d'Europe, après l'Allemagne et la France. Et si le train reste l'un des éléments clés de la logistique et de la guerre, il prend une importance particulière dans les villes libérées après des semaines d'occupation des troupes russes. Être de nouveau relié à Kiev, ça change tout. Et pour s'en rendre compte, il suffit de descendre en gare d'Izium, à 100 km de Kharkiv, dans l'est du pays. Izium, dont le nom reste associé aux 440 corps découverts dans la forêt après le départ de l'armée russe le 10 septembre. Il a fallu un mois aux employés du rail pour rétablir la liaison et redonner de l'espoir aux habitants. Ce sont eux que Vanessa Descoureau et Benjamin Thuot sont allés interroger.
Interception sur France Inter.
Nous sommes arrivés dans la minuscule gare d'Izium, dans ce hall de gare glacial quasiment. Vous, vous attendez le train pour Kharkiv, monsieur. Comment c'était ? Il n'y avait aucun train pendant l'occupation, comment c'était ?
Non,
il n'y avait rien pendant l'occupation. J'habite ici dans un village tout proche d'Izium. Impossible de circuler pendant tout ce temps, on ne pouvait rien faire. Dans les derniers mois, je dirais entre juin et août, ils ont mis en place un bus qui circulait dans la ville. Tous les ponts étaient détruits et les Russes avaient construit un pont provisoire pour relier les deux rives de la ville. Mais nous, on ne faisait rien. On ne pouvait que marcher, avec un ruban blanc accroché au bras. On aurait dit les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ça a été un grand jour pour vous, quand les premiers trains ont pu repartir de la gare d'Izium, une fois la ville libérée.
Ah
oui, bien sûr. C'était pas un train complet, il y avait seulement deux wagons. Mais on a pu ainsi aller à Kharkiv, enfin, pour recevoir le versement de nos retraites. Parce qu'ici, tout a été bombardé, donc on ne pouvait régler absolument aucune formalité. Les retraites qu'on a reçues, c'était pour les 8 à 10 derniers mois. Dieu merci, le gouvernement nous a payé tous les arriérés.
Il y a beaucoup d'émotions quand on évoque ce retour de l'activité ferroviaire. C'était comme une deuxième libération, en quelque sorte, l'arrivée des trains ?
Bien sûr. Il y a eu la joie de la reprise du trafic ferroviaire. Mais il y a eu surtout, avant, l'arrivée de l'armée ukrainienne. C'était un immense bonheur, immense. Parce qu'après deux ou trois semaines d'occupation, on n'avait presque plus rien à manger, on avait tellement faim. Moi, avant, je pesais 80 kilos. Quand nos soldats nous ont libérés, je pesais 64 kilos. Ma femme était à 101 kilos parce qu'elle est diabétique. Elle était descendue à 64 kilos aussi. Elle a failli mourir. On avait faim, vraiment faim. Ils nous ont donné, mais très rarement, une aide minuscule, quelques conserves. Mais le plus souvent, ils venaient nous voler nos pommes de terre dans le jardin.
Росія почала в Україні велику війну.
Володимир Путін оголосив війну Україні.
Російські бомби впали на лікарню, пологовий будинок.
Russia continues to attack civilian sites.
Moi, je suis le chef de la gare d'Izium. Je m'appelle Andriy Gadiatsky Leonidovich. Après la libération de la ville, on a commencé les travaux de reconstruction de la gare. Il y avait des dégâts sur les voies ferrées, le réseau électrique, les équipements de contrôle et de communication sur les bâtiments. Mais surtout, la gare et le bâtiment qui abritaient le dispositif d'aiguillage des trains. Tout ça a été endommagé. Ce sont les conséquences de l'agression militaire de la Fédération de Russie. Après les travaux de réparation, le premier train est arrivé ici le 10 octobre. À partir de ce jour merveilleux, on a lancé la liaison courte distance Kharkiv-Izium-Kharkiv. Ça a donné aux habitants la possibilité de se rendre à Kharkiv ou dans les autres villes. Parce qu'ici, plus rien ne fonctionnait. Ni les fonds de retraite, ni les banques. Il n'y avait plus de magasins. Rien.
Vous vous souvenez du 10 octobre dernier quand le premier train Kharkiv-Izium a repris du service? Dans quel état d'esprit vous étiez ce jour-là?
C'était très touchant, car ça voulait dire que la vie revenait à Izium. Nous étions de nouveau reliés au reste du pays. La ville entière était très heureuse, parce qu'avec les Russes, il n'y avait ni approvisionnement en eau, ni électricité, ni chauffage. Il n'y avait pas de nourriture, l'hôpital ne marchait
pas.
Alors ce train a donné l'espoir aux habitants que la vie normale revenait. Une vie normale et calme, surtout,
reprenait. Ça veut dire que sur le quai, il y avait des gens qui tout simplement allaient faire des courses, acheter à manger parce qu'ils n'ont pas pu le faire pendant des mois ici. Il y avait des gens qui arrivaient avec des vivres à donner à leurs proches. C'était quoi les images sur le quai à ce moment-là, sur ces premiers trains?
Il y a plusieurs cas de figure.
Dans le premier Kharkiv-Izium, certains revenaient chez eux. D'autres venaient voir leurs parents, leur famille. Les familles se retrouvaient. Elles étaient enfin réunies alors qu'elles n'avaient pas pu se voir ni communiquer pendant un long moment.
Il n'y avait
plus de réseau téléphonique ni d'internet. Et puis, il y avait aussi les gens qui quittaient Izium pour voir leurs proches et pour régler des formalités administratives. Tout le monde était ému, heureux. Parce qu'il faut comprendre que l'occupation a laissé des traces chez les gens. Ça a été 6 mois terribles. Tout le monde était effrayé, fatigué.
Et puis, il y a eu un autre moment que j'imagine important, le premier train qui a relié la ville à Kiev, la capitale. Cette première connexion avec la capitale, c'était comment?
Je veux d'abord préciser qu'avant la guerre, cette liaison n'existait pas. Elle a été symboliquement créée à la libération. Avant, les trains ne faisaient que passer par Kiev. On était seulement une gare de passage. Le fait d'avoir lancé pour la première fois le Izium-Kiev, c'était essentiel autant pour la ville que pour le pays.
Moi je veux complètement
de chauffer en attendant le train de Kiev qui arrive à midi.
Je suis en train de perdre mes pieds.
Terminons ce reportage à la gare de Kiev devant un panneau assez particulier. C'est vous qui allez nous en parler, Arkady Davydenko. Vous avez été notre guide pendant tout ce périple ferroviaire. C'est quoi, très concrètement, ce panneau devant lequel nous sommes?
C'est le panneau qui représente la communication ferroviaire avec des villes où le contrôle a été perdu temporairement par l'Ukraine et villes envoyées par les Russes. Et la première destination veut dire Kiev Victoire.
Ça se dit comment en ukrainien?
Peremoha.
Donc ça, c'est Kiev. Le premier train affiché sur ce panneau fictif, en fait. C'est un faux panneau. Et après, il y a tout un tas de villes qui ne sont plus sous le contrôle ukrainien. Des villes que vous avez déjà visitées, vous, à titre personnel?
Moitié de ces villes.
Lesquelles, par exemple?
Melitopol, Berdiansk, Mariupol, Lysychansk, Kherson, bien sûr, mais Kherson est déjà reprise. Mais ce que je voudrais ajouter, que ce panneau-là est plutôt symbolique et représente l'espoir de la victoire prochaine. On espère de reprendre le contrôle de ces villes et que la voie ferrée va desservir ces directions bientôt.
Ce sera quoi la prochaine destination familiale pour vous quand toutes ces villes seront, si un jour elles le sont, sous contrôle ukrainien à nouveau?
Bien sûr, je crois que ça seront les villes de Crimée, et comme Simferopol par exemple ou Yevpatoria. Ça sera joli de pouvoir respirer par la pleine poitrine de l'air de la liberté.
Alors il a son petit succès le panneau, puisque vous, vous madame, vous faites prendre votre enfant en photo devant. Pour quelle raison c'est important pour vous?
C'est symbolique,
parce que nous venons de la région de Donetsk où se déroulent des combats féroces. Nous sommes de la ville de Bakhmout où il y a des combats infernaux. C'est pour ça, c'est un symbole pour nous. On prendra une nouvelle photo quand les villes indiquées sur ce panneau seront toutes affichées comme libérées.
Vous avez encore des proches qui sont là-bas?
Non, personne. Ni amis, ni proches. Tout le monde a été évacué.
Par quels moyens avez-vous fui Bakhmout?
Par le train. Le train de Kramatorsk à Lviv, à l'ouest du pays.
C'était dangereux sur cette ligne de continuer les liaisons ferroviaires?
Oui, c'était très dangereux. Deux ou trois jours après notre départ, il y a eu des attaques qui ont touché la gare de Kramatorsk. Quand nous sommes partis, il y avait des explosions à cause des frappes aériennes. C'était très dangereux à ce moment-là. Je pense que les employés de la compagnie de chemin de fer, ce sont comme des anges ferroviaires. En risquant leur vie, ils ont sauvé la nôtre. Nous, nous avons accepté de prendre un risque parce qu'il fallait qu'on s'échappe, mais eux, ils ont pris ce risque uniquement pour nous sauver.
Bon voyage à tout le monde alors.
Je vous souhaite que Dieu vous garde aussi.
Le train, ligne de vie de l'Ukraine, un reportage de Vanessa Descoureaux, prise de son Benjamin Thuot, réalisation Jérôme Chélus, assisté de Martine Messonnier, mixage Sébastien Royer. Vous pouvez dès maintenant réécouter cette émission sur franceinter.fr.